Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG cette semaine, ce qui a attiré notre attention, c'est l'extrême prudence des San Antonio Spurs pour ne pas précipiter le retour de Victor Wembanyama. Malgré une prépa estivale de haut niveau après sa longue blessure, on rappelle une thrombose à l'épaule l'an passé, l'intérieur français s'est à nouveau blessé mais au mollet gauche. La franchise texane réfléchit à la meilleure façon en fait de protéger désormais son prodige de 2m24. Souvenez-vous, on avait dit qu'il avait encore grandi cet été. Mitch Johnson, le coach des Spurs, dit ceci, je le cite. Ce qui est difficile en matière médicale ou même de performance, et quand on regarde les données de la science du sport, c'est quand on utilise des infos passées pour faire des prévisions sur l'avenir. Il n'y a donc pas beaucoup d'exemples ni de points de comparaison similaires à Victor. Donc c'est en quelque sorte une discussion continue, vivante, qui existe au quotidien. Et oui, en fait, c'est assez inédit de devoir gérer un joueur de 2m24. C'est pour ça qu'on va se poser la question aujourd'hui des GG à travers vos expériences. Je voudrais qu'on parle de ça. Comment gérer un gabarit hors norme? On ne parle pas de poids et tout ça, en fait, hein, là-dedans. Enfin, on peut tout englober, mais surtout la taille, là, parce que c'est ce qui pose le problème avec Wemby. Vous avez connu ça, vous, dans vos carrières. Fred, toi déjà, t'étais le grand qui, un peu comme Wemby avant Wemby, finalement, le grand qui voulait jouer à tous les postes. Dur à gérer, un gabarit hors norme. On rappelle, tu mesures, Fred?
2m17.
2m17.
Je mesure 2m17, et il faut se rendre compte qu'à l'époque, 2m17, c'est absolument colossal. Énorme, colossal, ouais. Les plus grands faisaient 2m10 et avaient du mal à bouger. Donc ils ont vu un mec de 2m17 arriver, un mec qui était capable de courir, qui était capable de sauter et qui bougeait plutôt correctement. Alors évidemment pas au niveau d'un joueur plus petit et pas au niveau d'un Wembanyama évidemment, mais quand même. Et donc d'un seul coup les mecs se sont dit mais comment on fait? Comment on gère ça? Comment on peut appréhender ça? Donc j'ai eu beaucoup de renforcement. Parce que justement au niveau du dos, parce qu'au niveau des genoux, parce que toutes les articulations qui sont sursollicitées quand on est très grand. Et c'est vrai que c'était pour moi, ça me semblait normal d'être grand en fait. C'est plutôt les autres qui ont voulu adapter la façon d'entraîner, la façon de me préparer, parce que il fallait faire attention à quelqu'un comme moi qui, encore une fois, une sorte de pionnier dans ce genre de truc. Donc c'est vrai que j'ai eu des entraînements très particuliers. J'ai même eu un coach, pour l'anecdote, parce que j'ai joué à l'autre Fred. Moi aussi j'ai des anecdotes. J'ai eu Michel Gomez qui m'a dit Fred. Donc c'était ma deuxième année pro de mémoire. Il m'a dit Fred, avant de courir, il faut savoir marcher. Et comme tu es très grand, tu as marché. Et donc il m'a appris à marcher. Et donc pendant que les autres faisaient des footings pour se préparer, moi je faisais de la marche, ce qui me rendait complètement fou évidemment d'être mis à l'écart. Mais lui il me disait, quand on est grand comme toi, il faut déjà apprendre à marcher, apprendre à appréhender son corps. Et la meilleure façon pour lui c'était de marcher. Donc j'ai appris la marche, je sais plus comment on appelle ça, dynamique,
rapide, ouais. Ouais,
marche rapide, marche dynamique, parce que lui considérait que c'était impossible d'avancer comme sans ça. C'est pas facile d'appréhender une grande taille comme ça. J'ai eu deux hernies discales, notamment la première qui m'a énormément stoppé dans ma carrière. J'ai été opéré par le professeur Saillant. Ouais, je me le raconte un peu. Et en fait, lui m'a dit que certainement je pourrais plus jouer au basket après ça. C'est pour ça que quand on parle de grosses blessures, parfois c'est difficile de savoir exactement comment on peut faire. Parfois ton corps te limite aussi.
Et quoi, t'es un géant au pied d'argile en fait. T'es fragile
les géants sont des géants au pied d'argile en quelque sorte, non?
Oui, parce que les leviers sont plus importants. Physiquement, ouais. Les bras de levier sont plus importants. Et à partir de là, forcément, on impacte plus. Quand tu fais 2m17, quand tu te baisses, quand ton dos se baisse, c'est pas le même poids, c'est pas le même rapport que quelqu'un qui fait 1m90. Donc forcément, c'est plus compliqué. Donc il a fallu apprendre plein de choses. Il a fallu essayer de se renforcer. Et malgré ça, je suis pas passé à travers les mailles du filet et opérer du genou, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais par contre, deux hernies discales.
Comment gérer un gabarit hors norme? C'est la question du vestiaire, les grandes gueules du sport. On a deux judokas. Vous vous pointez à 1m96 tous les deux, c'est ça, je crois, plus ou moins?
Ouais,
David, et donc ça, c'est hors norme. Non, mais vous étiez dans la catégorie.
Je me promène dans la rue parfois avec mes deux enfants, là.
Non, mais en tout cas, vous étiez dans la catégorie des hors normes, en fait, des lourds, où il n'y a pas de limite.
Oui, c'est ça. Dans notre génération, dès que tu dépasses 1m90, voilà, t'es tout de suite grand. De toute façon, tu t'en aperçois quand tu t'assois dans un avion ou dans un train, en largeur comme en longueur, tu dis, bon, là, ça n'a pas été fait pour nous, quoi, c'est clair.
C'est quand le biche, il arrive pour te sortir du siège que t'as un dos.
Non, c'est le siège qui sort. Donc ça c'est bon, la vie t'apprend ça très rapidement. Mais pour ce qui est d'un basketteur que Wemby ou ce qu'a été Fred, et moi ce que j'ai vécu, j'ai ressenti ça. Alors je sais pas si tout le monde va être d'accord, mais à 15-16 ans, grosso modo, j'avais 17, j'avais atteint à peu près ma taille d'adulte, etc. Sauf que t'as t'as l'architecture, t'as la boiserie, t'as de la carcasse, mais t'as pas encore le ciment autour. C'est complètement ça.
T'as grandi trop vite, en fait.
Bah, parce que tu grandis, puis les muscles sont pas encore là, ils viennent petit à petit, tu vois. Donc, t'as des physionomies où les muscles sont là très tôt et ils tiennent tout ça et ça se passe pas trop mal. Puis t'en as d'autres comme nous et Winby, je pense qu'il en fait partie, où t'as besoin de t'épaissir, t'as besoin de la masse musculaire qui doit arriver au fur et à mesure, s'agglomérer autour de ce grand Tetris, enfin ce grand truc là, pour que ça tienne. C'est aussi bête que ça.
Mais donc toi t'as appris à construire ce corps.
Mais tu te le construis au fur et à mesure, donc tu fais de la muscu, tu te prépares pour ça, etc.
On peut parler de bonnes recettes aussi.
Oh, des très bonnes recettes aussi, bien fournies en protéines. Bref, tout ça pour, à un moment donné, avoir un corps qui se tient. Et je pense que pour le problème de ce basketteur hors norme et surdoué, eh bien, il n'est pas encore à cette maturité physique-là. Il en a encore besoin. Il a besoin de prendre de la viande.
C'est pour ça qu'il grandit encore aussi.
Oui.
En fait, exactement. Tu peux commencer à prendre de la viande vraiment de façon intéressante à partir du moment où tu t'es arrêté de grandir aussi.
C'est ça. Une fois que tu auras pris de la viande, du muscle, est-ce que ce sera le même basketteur aussi? Il faut arriver aussi.
Il faut trouver un bon équilibre.
C'est ça l'équilibre, si justement. Tu perds la vitesse, tu peux perdre de la puissance, tu peux perdre tout ça, quoi.
Mais avant ça, c'est la protection aussi, parce qu'on l'a beaucoup dit, c'est le dos qui est au milieu des deux. Tu sais, entre la distance entre les pieds et la tête, c'est très, très grand.
Le pire, c'est le dos à gérer?
Le bas du dos.
Exactement. Et tu vois, il y a deux choses qui ont été dites. C'est des exercices de renforcement spécifiques. Et David, pour connaître l'histoire, il y a un mouvement qui a été inventé qui s'appelle le colon douille.
Ah oui, c'est vrai.
Le colon douille.
Alors, t'as un mouvement de muscu. Petite démonstration. Alors,
Laurent, j'ai beaucoup d'inquiétude quand il y a colon et douille dans le même mot.
Le colon douille. Explique. Non, mais c'est vrai, c'est super sérieux. En fait, Laurent Del Colombo, qui a été un des premiers pionniers poids lourds, qui a rencontré Yamashita, tout ce que tu voudras, lui, en fait, il savait qu'il y avait un problème parfois au niveau du dos. Et donc, on faisait de la chaise romaine. Sinon, on faisait des séries de colon douille. Après, c'est devenu un label, tu vois.
C'est quoi?
Et donc, chaise romaine avec des tractions de poids en même temps. C'est-à-dire que tu te mettais, tu vois, en tension sur une chaise romaine, c'est-à-dire que toi, t'es sur le dos en tension, tu vois ce que c'est une chaise romaine?
Ouais, non, ils savent pas.
Vas-y,
les téléspectateurs savent. C'est-à-dire que, non, c'est pas ça du tout. T'as une table avec un arceau qui te prend derrière les mollets ou au niveau des chevilles.
T'as le haut du corps
dans le vide. Tu vois, t'as l'extrémité de la table à la ceinture.
Ah oui, c'est quand tu fais des extensions de dos, là.
C'est ça, voilà. Exactement. Quand tu fais des extensions de dos. Donc, tu te mets en extension, mais tu prends des poids. Tu prends ou une barre ou des poids indépendants. Et là, tu fais... Donc, tu restes en extension, tu travailles toute ta chaîne des ischios, des fessiers et des lombaires et ensuite tu travailles aussi tes rotateurs quand tu montes le poids de chaque côté, tu vois, mais en suspension avec des poids de 30 dans chaque main. C'est comme ça qu'on faisait. Donc 60 kilos en maintien comme ça.
Mais ça c'est donc
David, et on faisait des séries de 150 et 200.
C'est devenu la deuxième chose.
Donc David, ça c'est un exercice pour renforcer les grands.
Renforcer le dos.
Et la deuxième chose, c'est ce qu'a dit Fred, qui est très intéressant, parce que je connaissais pas le fait de marcher, mais tu enlèves très vite en fait l'impact à la marche ou à la course. C'est-à-dire que tu vois, un grand, surtout nous, on était avec des poids conséquents, on n'était pas que grand et maigre, on était aussi grand et grossièrement
lourd,
épais, lourd. Ça veut dire que tu enlèves tout ce qui évite course. Alors, hormis sur les appuis, tu vois, sur des sprints, ok. Mais par contre, les footings, etc., tu vas l'enlever parce que pareil, la lombalgie va se déclencher. Donc là, j'ai une petite anecdote. On a forcément fait beaucoup de vélo. Beaucoup de vélo. Et j'ai une anecdote de David Douillet qui prépare les Jeux Olympiques de Sydney et qui fait donc du vélo et il s'éclate la grande gueule par terre. Et nous, on était au service de David pour sa préparation. Ouais. Et on nous dit, David est tombé. C'est juste avant les Jeux. Alors, David est tombé. Forcément, faut pas le dire. Attends, tu sais quoi? Il y a plus de peau. Ouais. Il a plus de peau sur le dos. Il a plus rien. Et on est dans un espace de préparation où, comme on n'y avait pas de pognon, on était avec des gens qui étaient monsieur, madame, tout le monde, qui venaient faire qui venaient avec nous, avec le plateau et tout, pour voir comment ça allait. Et David, il s'installe à table. Il est blanc, mon pauvre. À la mort. On sait que les Jeux, c'est pas gagné. Et justement, le dos, il avait déjà mal. Donc, je savais même pas comment il allait être porte-drapeau du truc, tu vois. Et il y a un monsieur qui vient et qui dit, hey, ben c'est toi, David Douillet? Et lui met, une grande tarte dans le dos. Alors, comment il va, David Douillet? David, il a pris une suée, mon pauvre. Ça transpirait de partout, douleur de dingue. Il dit, ouais, c'est bon! Le gars, il regarde, il fait, pousse en l'air. Super, David Douillet.
C'est plus sympa à la télé quand même.
Non, mais ça me fait penser à un truc. C'est que finalement, quand on est grand, peut-être, il faut mieux apprendre à tomber. aussi. Basket, judo, vous êtes deux sports, il faut savoir tomber.
Nous, on apprend à tomber. Alors que paradoxalement, c'est dans les sports de combat, on a l'habitude, mais nous, on apprend à tomber, oui.
Oui, mais bien sûr. Et si j'avais pas su tomber au moment de cet accident, parce que j'étais à 80, accident, descente de col d'Em, tu vois, sur Bourg-Saint-Maurice, on était en stage, on venait de faire le col en vélo, etc. Fin du col, je prends une gamelle de dingue, j'ai le dos brûlé.
Les gabarits costauds, en plus, vous sollicitez beaucoup les bicyclettes, les pauvres vélos.
Ça veut dire quoi? Parce que je pense aux gens qui nous écoutent là, ça veut dire quoi apprendre à bien tomber?
Bien tomber, c'est accepter la chute.
Accepter la chute et l'accompagner.
Voilà.
C'est-à-dire que plutôt que d'être contre la chute et de se raidir et se durcir, tu l'accompagnes en te poussant un petit peu.
Mais ça veut dire quoi? Vous faites des cours, on vous fait tomber en fait?
Ou en judo,
apprennent à tomber.
Et nous au basket aussi. Mais vraiment, si on se met pas en force, etc., on apprend, on se jette en arrière et on met ses mains juste pour accompagner le
mouvement. Genre là, Wemby, on lui apprend avec ses 2m24 bien tomber.
À son âge, il s'est tombé déjà.
Non, mais tomber et surtout récupérer l'équilibre. Parce que les grands gabarits comme ça, quand tu es en déséquilibre avant, par exemple, pour attraper ta marche normale et tout, tu es tellement grand. Et puis, si tu mets le bras, si tu tombes, les segments qu'il y a, ils vont se faire super mal. C'est des gabarits hors normes. Donc, t'imagines, toi, la longueur de bras quand ils tombent par terre?
Ça devrait être appris dans toutes les écoles, ça, savoir tomber. Sans déconner. On cherche du fric pour faire des économies dans notre pays. Bah, rien que ça, ça coûte rien.
On parle tellement aujourd'hui d'éviter les blessures.
Tu sais, pour ouvrir l'histoire de la chute, et là où je rejoins David, la chute dans les EHPAD, les personnes qui tombent, 80% des personnes derrière, elles décèdent.
Mais oui, bien sûr.
Apprendre à chuter, c'est quelque chose de fondamental qui n'a jamais été vraiment creusé.
Tu vois que plus dans le sport de haut niveau.
Je vais t'apprendre.
Je suis tombé dans l'eau et je me suis cassé un truc. Alors, il faut être très fort.
Juste pour rebondir sur ce qu'il disait par rapport au vélo, nous, en fait, on fait que de la course et que des sauts. Donc forcément, ça sursollicite le dos, les genoux, les chevilles. Et donc, le poids est un inconvénient, évidemment, mais la taille aussi. Donc, on doit se renforcer, se muscler pour essayer d'éviter au maximum les problèmes.
Comment gérer un gabarit hors norme? C'est le sujet du vestiaire des grandes gueules du sport. Alors là, on parle de gabarit hors norme quand vous étiez dans votre carrière, quand vous étiez actif. Ça avait du sens quand vous étiez poids lourd en judo, quand tu étais dans la raquette,
Pourquoi
Fred.
Tu dis « avait »
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça avait un sens. En gros, de mettre la barbaque,
c'est ça le problème.
Alors c'est ça la question.
Dans l'après, pas passer poids mouche quoi.
Non mais l'après carrière, ce corps que vous avez construit, ouais. Ce corps hors norme que vous qui en fait vous apportait quelque chose de très positif.
Oui.
Comment on le gère?
C'est dur. C'est dur. C'est comment te dire. T'as un corps qui est construit puis qui se déconstruit parce que tu t'entraînes 10 fois moins quoi. Tu vois. Donc la bascule, elle indique le même chiffre. Et tu vois, à l'œil, ça change. Et c'est ça qui est terrible, toi. Et à un moment donné, ça change, et puis tu vois la bascule qui commence à augmenter. Et là, tu passes dans une deuxième phase. Donc c'est affreux. C'est affreux à gérer. Tu te retrouves, comme moi, à 30 kilos de trop que j'essaie de gérer comme je peux. Parce que j'ai un estomac, un appétit qui a pris des habitudes.
Tu gères pas, toi. Tu digères, toi.
Ouais, je digère, t'as raison. Je passe mon temps à digérer. Mais quand je passe au buffet, j'ai les mêmes réflexes qu'avant quand j'étais athlète. Je cramais 6-7 000 calories. Et bien là, j'en crame.
Et aujourd'hui, ton
500.
Corps. Les articulations et tout ça.
Rentre pas là-dedans parce qu'il n'y a pas assez de temps pour l'émission. Les articulations, c'est une horreur. Si tu ne conserves pas un minimum de dynamisme musculaire pour pallier à tout ce que tu as eu tout au long de ta carrière, tu n'es qu'une douleur, mon vieux. Voilà, c'est ça.
Donc ça veut dire, David, tu pratiques des disciplines encore sportives, tu t'entretiens quotidien.
J'ai pas le choix, parce que si je fais pas ça, j'ai mon corps qui s'étiole, qui s'approvit, et toutes mes articulations partent en sucette.
Donc,
et
par la douleur. Qu'est-ce que tu fais?
Mais je fais du renfort musculaire, je fais du pilates reformer, je fais du vélo quand je peux, parce que là j'ai mon coude qui m'embête, mais je fais ça aussi.
Attention au vélo quand même.
Ouais,
non, il me fait peur à chaque fois.
Non, mais c'est un message pour tout le monde, ça, en fait, pour tous ceux qui nous écoutent. Non mais en fait, ce qui est intéressant, David, c'est que ce corps-là qui aujourd'hui te dit te fait souffrir.
T'es obligé de l'entretenir.
Non mais pour toi, c'était ton corps de super-héros.
Ouais.
C'est-à-dire que tu sais quoi, il y a pas un sentiment, tu te sens pas un peu abandonné par ton corps d'une certaine façon?
Non,
ça a été ton instrument.
Non, ça a été mon instrument. Si, c'est un instrument fabuleux. Mais tu passes à autre chose et tu sais que ça se dégrade, ta vue baisse. Enfin, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter et l'entretenir. T'as été dans la catégorie des Formule 1, tu passes dans la catégorie
des chevaux pour toi.
Des Twingo, la comparaison est pas bonne, mais enfin voilà. Quoi.
Alors moi, ma vie n'est qu'anticipation. C'est-à-dire que pour choisir ma voiture, il faut que j'anticipe. Quand je prends des billets de train, il faut que j'anticipe. Quand je me gare, il faut que j'anticipe. Parce qu'il faut, que je sois suffisamment loin pour que je puisse sortir. Parce qu'avant, j'étais hyper souple. Sauf que je suis beaucoup moins souple. Quand je choisis ma voiture, mais en fait, ma vie n'est qu'anticipation. J'ai des problèmes de genoux. Enfin, j'ai très mal aux genoux. Et par exemple, j'anticipe aussi tout le temps pour essayer d'éviter de monter par les escaliers.
Ton corps porte les stigmates de ta carrière de basket.
Évidemment.
Les chevilles, par exemple.
Moi, je fais pas beaucoup de sport, mais par contre, je marche beaucoup. Ouais. À la fin de la journée, je suis obligé de mettre mes chevilles sous l'eau parce que j'ai trop mal aux chevilles, j'ai trop mal aux genoux. À un moment, oui, on a des stigmates. En plus, avec mon gabarit, je te dis, anticipation permanente. Quand on me change de wagon de la SNCF, je deviens fou, moi. Parce que je peux pas allonger mes jambes. Si je peux pas allonger mes jambes, je vais avoir mal pendant tout le trajet et je vais pas pouvoir marcher après.
J'ai pris le train avec Fred Weiss, on était dans un carré ensemble.
T'as vu comment j'ai eu du mal à rentrer?
J'étais collé à la vitre.
Non, mais t'as vu comment j'ai eu du mal à rentrer?
Bien sûr, c'est pas adapté en fait.
Il y a une feuille de papier entre excès et excellence. C'est-à-dire que tu fais une telle dépense énergétique quand t'es athlète que même si t'es parfois dans l'excès, tu peux brûler les calories, tu peux te trouver à l'équilibre, tu peux être performant.
Et toi, ton après-carrière, c'est comment?
Mon après-carrière, c'est que moi, j'ai dû me faire opérer. Moi, j'ai fait une sleeve, j'ai perdu 50 kilos parce que j'arrivais plus à gérer. Et que je me suis fait soigner parce que j'étais tombé dans une maladie qui s'appelle l'obésité. Et à un moment donné, je voyais 150, 160 et j'ai passé la barre des 160 kilos. Je te raconte une histoire parce que j'en raconte rarement. Quand j'étais junior, sélection pour aller au Japon. C'est le rêve de ma vie. J'ai pas une thune, j'ai rien, j'ai jamais quitté la Normandie. Je pars au Japon avec l'équipe de France. Sauf que dans la convocation, c'est marqué venez en costume. J'avais jamais acheté un costume de ma vie. Ma mère, elle m'emmène à Tati. On avait des gros moyens. Et là, tu sais quoi? Ils m'ont trouvé un pantalon violet, une chemise jaune et une veste verte, tu vois. Autant te dire que j'ai morflé. C'est le seul truc dans lequel je rentrais.
C'est le seul truc à ta taille.
C'était le seul truc à ma taille. Et là, je te dis un truc. Je me suis fait opérer, j'ai perdu 50 kilos. Je suis allé dans un magasin et j'ai mes habitudes parce que quand j'étais gros, en surpoids et tout, j'avais que là que je pouvais m'habiller. D'ailleurs, il y a des judokas qui ont monté des magasins de prêt-à-porter parce que ça n'existait pas. Et j'arrive et la dame, elle me dit depuis le début, vous étiez chez les hommes forts. Maintenant, vous avez perdu, vous êtes chez les hommes grands. J'étais super content. Et elle dit voilà ce que vous pouvez mettre. Quelle couleur de costume vous voulez? Et c'est à 45 piges.
C'est là que t'as dit orange et.
C'est à 45 piges.
Merci l'atelier.
Pour te dire la différence de ce qu'on vit, c'est à 45 ans que pour la première fois de ma vie, j'ai choisi la couleur de mes vêtements.
Non, mais ça, c'est un luxe.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai jamais choisi la couleur de mes fringues. Ouais. J'ai choisi celle qui m'allait.
Non, mais en plus, c'est hyper stigmatisant parfois ce que tu vis. Ce que là, qu'on te dit aujourd'hui, fait partie des hommes grands alors qu'avant,
tout. Oui, moi là-dessus, j'ai pas de problème avec ça, mais si tu veux, je suis rentré dans un monde où je me suis rendu compte, je m'étais jamais posé la question de la couleur de mes fringues. Jamais. J'ai toujours dit, putain, qu'est-ce qui va m'aller? Et je m'étais jamais dit, tiens, je voudrais mettre ça. On a des copains qui font 180 kilos à l'époque. Il y avait Goffy, tu te rappelles. C'était une marque un peu élastique pour pouvoir mettre par-dessus le kimono. Les gars, ils se sont habillés en Goffy jusqu'à la fin de leur jour, tu vois. Parce qu'il y a qui rentrait que là-dedans. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, il n'y avait pas Internet. Tu ne pouvais pas commander tes pompes à Los Angeles.
Et rapidement, pour un dernier tour de table, si vous avez un conseil à donner à Victoire Wembanyama, sur justement la gestion de ce corps-là qui va accompagner toute sa vie.
Ce corps. De la patience, ça va venir et prendre la viande, quoi.
Oui.
Prendre la barbecue, voilà.
Il faut de la viande autour de l'os. Ouais. Il faut protéger. Tu vois, par exemple, un truc très simple. L'épaule, l'articulation. Si tu veux pas te la luxer, faut la renforcer. Donc, il faut être plus bœuf.
C'est ça. Alors, j'aurais bien aimé lui dire, protège tes pieds, parce que c'est très important pour quelqu'un de très grand, sauf qu'il le fait déjà. Donc, je pense qu'il est vraiment sur un processus de prendre du muscle, de se renforcer les genoux, de se renforcer le dos et de renforcer les pieds.
Renforcer les pieds. Ben voilà, conseils pour Wemby, c'est vrai?
Bien sûr.
C'est-à-dire?
Ah ben, sur du maintien, je me suis rendu compte que, tu vois, quand un jour, tu essayes de mettre ta chaussette, toi, sur une seule jambe, comme d'habitude, puis tu te casses la gueule, tu dis, waouh, qu'est-ce qui m'arrive là? Tu vois? Et tu dis, non, ben, je vieillis. J'ai plus de maintien. Tu sais, je fais du maintien.
C'est comme quand tu essayes de mettre ton caleçon en sautant, comme
ça. Ouais, non, mais.
Tu sais ce qu'il m'a fait, lui? Georges, tu sais ce qu'il m'a fait, lui? Moi, j'avais des chevilles énormes, tu vois, des grosses chevilles.
Avec le poids des chevilles.
Et tu sais ce qu'il fait? On est en préparation pour les Jeux de Sydney. Et il y a 25 caméras qui arrivent pour faire l'interview, machin. David, ça le saoule. Et là, il dit, mesdames, messieurs, je vais vous montrer le truc le plus incroyable que vous avez jamais vu de votre vie. Et là, je vois 25 caméras qui s'allument. tout rouge partout. Il fait, regardez, des véritables pieds de cochon. Et là, je vois toutes les caméras qui descendent vers mes pieds. Je suis sur les rushs de préparation de Cité du Monde. Si un jour, vous retrouvez des pieds assez costauds, un peu, voilà, ce sont les miens.
Un super pote, David. Mais en même temps, pote qui est aussi capable de kidnapper pour te sentir.
C'est la famille.
Allez, on referme la porte du vestiaire. C'était passionnant de vous écouter comment gérer un gabarit hors norme, évidemment. Très intéressant de vous avoir sur vos expériences.